Contemplation et charité. Nous courons toujours le danger de vouloir comprendre l'amour de Dieu selon nos idées. Et nous inclinons aussi à accentuer la différence entre les choses ou les affaires importantes et anodines, grandes et petites. On croit que ce que la majorité des gens tient pour important ou sérieux, Dieu aussi le tient pour important et sérieux. On croit même que Dieu ne s'occupe de nous que dans les moments les plus graves de notre vie, que son amour est le cadeau qui, dans les moments décisifs, nous donne force et consolation. Mais si nous pouvions nous voir avec les yeux de Dieu, combien ridicule nous apparaîtraient ces gros soucis, ces choses importantes. Alors nous pourrions comprendre que l'amour de Dieu, qui meut et porte tout, fait que notre existence terrestre se développe selon un principe et une logique qui a peu à voir avec nos principes quotidiens et conventionnels. Saint José Maria parlait toujours de la logique de l'incarnation. Ce n'est pas seulement une raison humaine qui doit nous guider, nous orienter, nous porter. C'est une autre raison, la raison du Dieu fait homme. Dieu nous voit et planifie notre quotidien d'après ses idées. Et ce sont des idées d'un Dieu qui reste Dieu, mais qui s'est fait homme. Si nous vivions en étant plus contemplatifs, si nous avions Dieu à l'esprit et cherchions sans cesse à susciter la conscience de sa présence, alors nous accepterions notre existence telle qu'elle est en fait, pauvre eau qui attend d'être transformée en vin. Nous aurions Dieu à l'esprit, nous ferions nôtre cette logique de Dieu. Nous comprendrions alors aussi que nous avons besoin d'argent, d'honneur, de la bonne réputation, du travail, de la performance, parfois même d'actes héroïques, mais bien plus et plus souvent d'un sourire, de la poignée de main d'un ami, d'un jour ensoleillé, d'une carte de vœux, d'un verre de bon vin sur la table. Si quelqu'un croit que Dieu rit de ces choses anodines, alors c'est le Dieu des païens, celui d'un Platon ou d'un Aristote peut-être, mais pas notre Dieu. Il nous est toujours proche, y compris dans cette modeste trame du quotidien. Son amour n'est pas seulement miséricorde, quand il guérit les pécheurs et les malades, mais miséricorde aussi quand il assume nos joies simples de la vie quotidienne. Son cœur n'est pas seulement le cœur du Père, mais aussi celui de la Mère. C'est en particulier le prophète Isaïe qui parle des sentiments maternels de Dieu. Il nous prend dans les bras et nous berce. La main du Père nous soutient. La main de la Mère nous caresse et nous console. Peut-être les héros et les sages peuvent-ils s'en passer? Nous, pas. Nous en avons besoin. Nous voulons avoir Dieu à notre table, chez nous. Nous voulons avoir Dieu lors de nos fêtes de famille, dans la rue, l'avoir avec nous lors de nos marches et excursions, dans nos ateliers, nos salles de concert, dans notre salle à manger et notre chambre, au pied du berceau d'un nouveau-né et du cercueil du défunt aimé. C'est cela, contempler, éprouver l'amour de Dieu dans ces choses de la vie quotidienne. Nous n'aimons le prochain qu'à travers cette participation complète à sa vie quotidienne, non pas seulement quand nous souffrons avec lui, la pitié n'est parfois qu'une contagion d'émotions, mais aussi quand nous sommes capables de prendre part aux petites joies du prochain, comme l'a formulé saint Paul. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. C'est peut-être la pierre de touche la plus forte de notre amour du prochain. Suis-je capable de réellement me réjouir quand un autre a connu le succès ou a gagné au loto? Ce n'est pas seulement un raffinement de charité, mais une condition. Si cela fait défaut, la totalité de notre relation au prochain est boiteuse. Laissons donc de côté les réussites voyantes, les grands programmes, la préférence pour les hauts faits, et apprenons à concrétiser l'amour dans la vie quotidienne. Cela signifie aussi que le quotidien doit rester quotidien. Pas même la foi et l'amour ne pourraient et devraient faire des journées de travail, des journées festives. Ceux-ci doivent être acceptés dans leur simplicité modeste, ni édulcorée, ni spiritualisée. Ce n'est que sous cette condition que la vie quotidienne peut être ce qu'elle doit être pour un chrétien. Lieu de la foi véritable, école de mesure, exercice de patience, abandon des faux idéaux, silencieuse occasion d'amour véritable, de fidélité authentique, mise à l'épreuve de l'objectivité, du sens du réel qui représente le cadre où s'exerce la plus haute sagesse. Toutes les vertus les plus élevées et les plus simples naissent, croissent et se développent dans la vie quotidienne. Ne nous faisons pas d'illusions. Les heures de gloire surviennent rarement. Dans le cadre seul de la vie quotidienne, fleurit le secret de l'amour de Dieu et du prochain. Dans cet amour réel, nous n'entrons pas par des sentiments élevés et l'exigence envers soi-même, mais par le dépassement de l'égoïsme et l'oubli de soi en nous souciant des autres, par la patience qui nous rend sereins et nous remplit vraiment de sagesse. C'est justement cette occupation quotidienne à la maison, à l'université, dans un ministère ou une boulangerie qui nous purifie. C'est elle justement qui exige de nous que nous aimions les choses, le service, la disponibilité. Tout cela ne naît et ne fleurit que dans la vie ordinaire. Les petites joies et soucis du quotidien peuvent aussi faire naître en nous étroitesse de vue et sécheresse du cœur, mais seulement dans la mesure où nous les comprenons mal et en usons mal. Ils nous déçoivent même parfois, mais ils exigent de nous humilité, compréhension, douceur, et celles-ci constituent justement les conditions préalables de l'amour authentique, ces conditions que l'on apprend si lentement et avec tant de peine, et qui sont cependant indispensables. Le petit est déjà la promesse du grand, le temps, le début de l'éternité. La petite joie donnée, ou même seulement partagée, est anticipation du paradis futur. La vie quotidienne est cette eau à boire sereinement et gainement, au nom du Seigneur et ensemble avec notre prochain. Si nous ne la méprisons pas, mais au contraire l'apprécions, cette trame grossière de la quotidienneté, alors sans nul doute nous remarquerons un jour que tout a le goût du vin divin, ou plutôt que Dieu, comme le Christ l'a expliqué et réalisé, vit au milieu de nous. Il n'y a plus alors de petites choses, de petites affaires insignifiantes. Tout est grand, comme le disait San José Maria, car l'amour rend effectivement grandes les plus petites choses. La prose quotidienne devient un poème épique. Non qu'un chrétien ne doive dire que des paroles sublimes et ne salue son prochain qu'avec des manières. Le christianisme consiste justement en cet embrassement du naturellement ordinaire qui manifeste seulement la très haute et plus que discrète noblesse des enfants de Dieu. Implorons du ciel une âme contemplative, que nous voyions le Christ dans notre quotidien, que nous le portions, le transmettions aux autres, que nous le voyions aussi auprès des plus pauvres, de ceux qui ne nous sont pas sympathiques, de ceux qui nous sont pénibles. Demandons que devienne réalité cette grande vision de San José Maria, être des gens qui, dans le monde, n'épargnent pas leurs efforts et qui, cependant, sont des contemplatifs, qui cherchent Dieu et voient Dieu partout et en chacun. Implorons cela. Un monde soutenu par de tels hommes se transforme, finit par devenir chrétien, pour devenir réellement l'antichambre du ciel. d'abord aimer de Dieu. Nous nous retranchons maintenant de l'agitation de la vie quotidienne. Si vraiment nous voulons nous recueillir, cela signifie chercher une parole que l'on ne peut entendre que dans le silence. Une parole qui ne résonne pas de façon provisoire et par hasard. Une parole qui n'est pas importune et adressée cependant très personnellement à chacun d'entre nous. Une parole donc qui n'est pas humaine. De ce genre, nous en entendons suffisamment. Nous en avons notre soûl. Parfois, on aimerait ne plus entendre, ne plus lire, rester en silence et implorer de Dieu une parole, de ce Dieu qui, par sa parole, nous a appelés de façon très personnelle à la vie, qui connaît le pourquoi et le en vue de quoi. Nous avons besoin de cette parole de Dieu qui nous a créés non pas seulement une fois, mais qui constamment, instant après instant, nous maintient en vie. Une parole donc qui confère à notre existence sens, substance et contenu. Parce que nous sommes déjà formés, puisque nous avons déjà beaucoup entendu et lu la parole de Dieu dans la Sainte Écriture, nous savons que la teneur de cette parole qui nous est dite aujourd'hui, maintenant, est « Ne crains point, je suis avec toi, je suis là pour toi, parce que je t'aime personnellement. » Nous ignorons sans cesse cette parole, car nous nous connaissons suffisamment pour savoir que nous ne méritons pas cela, et même que nous ne méritons rien du tout. Non seulement Dieu, mais chaque personne, chaque créature peut se passer complètement de nous. C'est pourquoi nous sommes parfois accablés, déçus et même incapables de nourrir le souhait d'être ne serait-ce qu'un peu meilleur. Notre indigence, notre médiocrité nous semblent être si insurmontables que nous nous accommoderions presque de notre échec et même de notre condamnation. Mais la parole de Dieu, justement, bouleverse nos sentiments et tous nos concepts. La parole de Dieu bouleverse la vie de chaque individu, justement, parce qu'elle n'est pas une parole de condamnation, mais une parole d'amour. C'est incroyable, mais c'est le cœur de notre vie chrétienne. Si Dieu nous condamnait, nous ne pourrions qu'y consentir. Mais la parole de Dieu ébranle notre existence au plus intime, parce qu'elle est une parole d'amour personnel. Nous ne le comprenons pratiquement pas. Un Dieu qui ne dépend de personne, ce Dieu même, lui-même le dit, un Dieu qui malgré tout nous offre sa confiance, qui se donne à nous personnellement et qui attend de chacun de nous de grandes choses, c'est-à-dire qu'il attend de nous la réalisation de son projet, de son plan, de son idée éternelle. C'est exactement cela que dit la parole de Dieu. Au fond, et là se trouve le paradoxe, nous n'osons pas y croire. Et en même temps, celle-ci est la seule parole qui nous rende capables de nous lever, de nous relever, d'aller de l'avant. Nous savons par expérience qu'il n'y a pas d'autre parole, ni d'avertissement, ni de menace qui pourrait susciter en nous espérance, force et confiance. D'un amour éternel, je t'ai aimé. C'est la parole que Dieu me murmure à l'oreille toujours, dans toute situation. Nous ne comprenons pas, nous ne pouvons y croire, car nous avons péché, nous sommes faibles. Notre médiocrité est plus grande que notre péché, et plus grande que notre péché est notre fatigue, notre manque d'élan, d'envie. Mais Dieu nous aime. Ne pensons pas tant maintenant à nous, à ce que nous sommes. Pensons à lui, à celui qu'il est et qui est tout et n'a besoin d'aucun autre, que personne ne pourrait rendre plus grand. Il a pensé à nous, nous a voulu, nous a appelés. Chacun d'entre nous est l'objet de son amour, littéralement éternel. Tout dans notre vie en dépend. Croyons que nous sommes aimés de Dieu, chacun de nous personnellement, au point qu'il n'aurait personne d'autre à aimer. Nous sommes l'objet de cet amour littéralement infini, sans limite absolue. La création entière, le ciel et la terre, toute la splendeur de la nature, toute l'histoire du monde, tout cela n'est rien. C'est comme si moi seul je recevais tout l'amour de Dieu, comme s'il ne voyait et ne regardait que moi. Les saints ont vécu cela, mais alors nous pensons, qui suis-je? Nous avons peine à croire qu'il nous aime. C'est pourquoi nous sommes tous indécis et soupçonneux, parce que nous n'y croyons pas. Nous n'avançons pas sur le chemin de la foi et de la bonté. Malgré toutes nos confessions, prières, communions, exercices spirituels, nous restons comme nous sommes. Il nous est difficile de croire réellement en l'amour. Saint François d'Assise a fait un jour cette découverte. Il en est presque devenu fou de joie. Il devint d'un coup capable d'entreprendre des choses héroïques, d'assumer ses propres peurs et de vivre une vie de don total à Dieu, de voir et de chanter l'amour de Dieu dans le prochain et dans toutes les créatures, les plus belles et les plus malheureuses. Et ainsi, tous les saints qui ont osé dire avec l'évangile Jean « Nos credidimus caritati », nous avons reconnu l'amour de Dieu a pour nous et nous y avons cru. Qui veut parler de Dieu et essayer de définir sa nature doit dire que Dieu est amour. Ainsi pouvons-nous résumer toute notre foi en cette parole. Dieu m'aime, je crois fermement en cela, quoi qu'il arrive. Chaque fois que nous essayons de nous recueillir, c'est-à-dire de le rencontrer, de parler avec lui personnellement, nous devrions dire « Je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Il me regarde personnellement. C'est ce regard qui m'offre l'être et toutes les possibilités de l'être. Il ne regarde pas tant ma pauvreté, mon néant. Il me regarde avec le regard de l'amour, à travers lequel il est mon Dieu personnel. Par ce regard, je suis son image et je suis unique. C'est incroyable. Mais c'est en cela que réside la vraie foi. Si je me livre à cette foi, ce n'est pas seulement le commencement d'un bon chemin, mais une véritable transformation de toute mon existence. Car celui qui se sait aimé se donne à l'aimer de sorte que celui-ci devient un avec celui qui l'aime. Si nous croyons à l'amour de Dieu, nous ne serons plus ce que nous sommes, mais, comme le dit saint Paul, nous serons un avec son esprit, divinisé donc. Cela correspond à la réalité. La pire façon d'offenser Dieu, c'est de ne pas croire en son amour, parce que par là, nous le blessons au plus intime en ce qu'il est, car Dieu est amour. Ce péché de ne pas croire en son amour a obscurci notre vie. Notre péché consiste précisément en ceci. Nous n'avons pas cru en son amour. Mais c'est cela justement que Dieu attend de nous, que nous croyions qu'il nous aime, de nous. Il n'attend pas en premier lieu que nous l'aimions, mais que nous nous laissions aimer par lui-même, si cela nous semble incompréhensible, impensable. Est-il possible que nous ignorions une telle offre, nous qui avons mendié avec tant de ténacité le dérisoire amour de quelques créatures? Nous qui sommes à la recherche d'une goutte de considération, de reconnaissance, d'affection humaine, est-il possible que je renonce à un débordement d'amour divin qui, si je venais à y croire, me rendrait plus qu'heureux? Certes, cet amour de Dieu pour moi est semblable à l'amour humain de bienveillance, mais même s'il est porté par la plus haute et sûre bienveillance, il connaît, comme tout ce qui est divin, des chemins qui ne sont pas nos chemins. Et en ce sens, l'amour de Dieu pour moi est semblable et dissemblable à l'amour humain. Charles Péguy écrit un jour « Mon Dieu, quelle sorte de Dieu étonnant es-tu? Tu aimes ceux qui te crucifient et tu crucifies ceux qui t'aiment. » De la même façon, sainte Thérèse d'Avila disait « Seigneur, est-il vrai qu'il suffit seulement de quelqu'un essaie de te faire plaisir pour que tu lui envoies les plus dures épreuves ?» Raymond Lull, le grand mystique majorquin, dit dans l'un de ses plus beaux livres de poésie et de mystique, dans lequel Dieu est l'ami et l'homme aimé, toujours présenté comme fou. Dis, folle, qui sait plus d'amour? Celui qui en a du plaisir ou celui qui en a les peines et les douleurs? Et le folle répondit que l'un sans l'autre, l'amour ne peut en avoir connaissance. Jésus nous dit « Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Le Père a livré le Fils aux souffrances les plus terribles. Le sentiment d'être abandonné de Dieu sur la croix. Dès lors, on n'a plus le droit d'opposer de résistance. On doit le suivre, lui donner notre confiance. Laissons-nous donc aimer à la manière de Dieu que parfois nous ne comprenons pas du tout. Mais pas par un Dieu impersonnel qui, comme le soleil, laisse tout apparaître et briller. Et moi aussi donc, puisque je suis là. Mais par un Dieu personnel qui m'a inventé, qui me connaît à l'avance, qui m'a appelé par mon nom et qui m'invite à partager son intimité. C'est logique ce que saint José Maria a écrit. Savoir que tu m'aimes et je ne suis pas encore devenu fou. Dans notre abaissement, nous n'osons pratiquement pas promettre quelque chose, pas même de l'aimer. Mais nous aimerions croire qu'il nous aime et cela suffit. Car dans la mesure où nous acceptons son amour, cet amour se saisira de nous. Alors on ne pourra plus reconnaître qui est l'ami, qui est l'aimé. Car tout deviendra un amour unique, que Dieu communique, qui vit en nous et nous brûle. L'envoi de l'Esprit Saint est l'envoi de l'Esprit d'amour. Viens, Esprit Saint, Esprit de Jésus-Christ, Esprit de Dieu, feu, caritas. Peut-être disons-nous cela avec un naturel qui trahit la routine de notre prière. Mais ce que nous demandons, c'est que l'Esprit de Dieu nous remplisse, que notre cœur soit comblé par l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour. Il est compréhensible que nous nous tournions vers Marie, parce qu'elle a été saisie, transformée par l'Esprit Saint. Elle devint la mère du Créateur, et le Christ s'est fait d'homme en elle. Propter nos homines, et propter nostram salutem. Sainte Marie, mère du bel amour, prie pour nous.